Vous écoutez, on lit pour vous.
En Ukraine, poésie de guerre et livres bombardés. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 8 juin 2024 dans Le Devoir. La poésie en temps de guerre retourne à ses fondamentaux, se reconnecte aux racines de la poésie épique, croit la poète ukrainienne Alina Krouk. À Montréal, samedi soir, pour parler de son recueil « A Crash Course in Molotov Cocktails », paru chez Arrowsmith Press, finaliste au prestigieux prix Griffin de poésie 2024, Madame Krouk se demande forcément aussi comment la littérature agit en temps de guerre. Conversation. La guerre n'est pas mon sujet préféré ni mon matériau poétique favori, souligne d'emblée Alina Krouk. Aussi spécialiste de baroque ukrainien, elle a publié des nouvelles, des livres pour enfants et 5 recueils. La poésie possède des outils pour transformer les expériences en art. Et la poésie en temps de guerre retrouve ses fonctions qui permettent de digérer les expériences, de les raconter, d'en être témoin, de guérir, de les mémoriser. Quelques semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en 2022, Madame Krouk, avec les poètes Julia Moussakovska et Katerina Mikhalitsina, toutes de Lviv, a commencé à publier sur Facebook des poèmes de guerre en ukrainien. Des traducteurs les ont suivis, presque en temps réel. C'était une façon de réagir immédiatement, en poésie, se rappelle-t-elle. Quand je me retrouve muette après un événement tragique, c'est seulement après avoir écrit que je réussis à retourner à mon existence, à ma vie. Quelle est cette vie de poète de guerre et professeur de littérature? C'est très polarisant. Nous vivons, loin de la ligne de front, dans une impression de normalité irréelle. À l'université, les profs enseignent, les étudiants apprennent, et tout le monde s'arrête pour descendre aux abris quand il y a une alerte. Nous avons peur. Nous sentons ensuite cette grande joie d'avoir encore survécu. Et nous savons tous, constamment, que la ligne de front n'est pas loin. Mon mari y est. Je ne peux pas ne pas y penser. Ces états, cette polarisation, ce blanc, noir, blanc, noir, ce n'est pas bon pour la concentration ni pour l'apprentissage profond. Visions intimes, responsabilité politique. Depuis le début de la guerre, Madame Krouk tourne beaucoup, un peu partout. Elle arrive de Toronto, continuera vers les États-Unis, passera par l'Allemagne. Dans ce brouhaha, elle écrit peu, et pas de fiction, qui lui demande une perspective que tout ce mouvement brouille. Elle écrit dans Crash Course « Je suis venu sur les tranquillisants, reparti sur les antidouleurs. Il n'y avait pas d'autre chemin. Je me sentais si éclaté, j'ai craint de percer la cabine de l'avion. L'intérieur de l'hôtel était d'un design complexe. Le corps des intervenants très raffiné. La guerre ne va pas au reste du monde, comme une blessure dans une robe de soirée. Trop lourd, le langage est trop coupant, les détails trop violents. J'estime que c'est ma responsabilité. Parler de la culture ukrainienne, de ce génocide culturel, des raisons de cette guerre dont les racines sont lointaines et profondes, de ce que nous vivons et souffrons, d'arriver à faire comprendre notre réalité actuelle. Pour être honnête, je déteste cette situation. Je préférerais vraiment travailler seulement comme poète, parler de mes visions intérieures et intimes, de ces sujets qui m'intéressaient en écriture avant la guerre, dit-elle. Avant la guerre, nous pensions nous aussi que la guerre se tenait loin de nous et de nos vies. Les livres fleurissent. Depuis le début de la guerre, l'édition et la littérature ukrainienne connaissent une croissance hors de l'ordinaire, explique Irina Baturevitch. Auparavant, 75% du marché du livre ukrainien était occupé par des productions russes, estime celle qui a travaillé au premier pas de l'Institut du livre du pays. Les gens lisent beaucoup plus maintenant. L'Ukraine était dans une grosse crise de lecture avant la guerre. Une étude faite en 2023 démontre que le nombre de lecteurs réguliers a doublé. Les lecteurs maintenant cherchent leur identité à travers la littérature et les voix nationales. Ce désir de voix ukrainienne provoque un retour aux classiques, aux livres enseignés à l'école, au point que de nombreux éditeurs qui ne touchaient pas du tout à la fiction ont commencé à en publier. C'est qu'avec ses 38 millions d'habitants, le marché du livre ukrainien a un solide potentiel. En février 2024, ouvrait à Kiev la plus grande librairie d'Ukraine sur 3 étages. Et la foire du livre Arsenal vient tout juste de se terminer dans la capitale, le 3 juin, en ayant attiré 35 000 visiteurs. C'est 7 000 de plus qu'en 2023. Le pays compterait, selon Mme Batourevitch, quelque 400 éditeurs. Irina Batourevitch est aussi à l'origine de Chitomo, un média ukrainien qui couvre la littérature depuis 2009 et en anglais depuis 2022. L'équipe de 10 personnes poursuit son travail, parfois de loin. La cofondatrice vit maintenant à Montréal, où elle a cofondé le Club ukrainien. Dans le palmarès 2023 que Chitomo a fait des best-sellers en Ukraine, on trouve, comme partout ailleurs, une romance de l'Américaine Tilly Cole et un livre de motivation de Jim Lawless. La première position va au journaliste du pays, Ilarion Pavliouk. « I can't see you're interested in the darkness » dans sa version originale se serait vendu à 44 000 exemplaires. Juste derrière, Maxim Kidrook et The Colony, New Dark Ages avec 37 000 ventes. La demande pour les livres ukrainiens est plus grande que jamais. Les éditeurs poursuivent leur travail sur des productions restreintes car chaque étape est plus longue et plus difficile. « On manque d'électricité », rappelle Irina Batourevitch, « et de ressources humaines. Plusieurs personnes sont au front, ou parties, ou décédées. Et en même temps, il y a des possibilités de floraison inédites pour la littérature ukrainienne qui attisent aussi la curiosité de lecteurs d'un peu partout dans le monde. Des mots, des balles, des explosions. Le 30 mai 2024, un missile russe a détruit l'importante imprimerie Factor Druk à Kharkiv. À une semaine de l'importante foire du livre Arsenal, c'est ce jour-là que le livre Words and Bullets était sous presse, ce jour-là qu'il était imprimé. Il devait contenir des conversations et entrevues avec 25 auteurs importants de la littérature actuelle ukrainienne, donnant dans le polar, comme la poésie, tels Artem Tchapeyem, Alina Krouk ou l'essayiste Volodymyr Yermolenko. C'est un livre qui n'existe pas, déplore Irina Batourevitch de Chitomo. Le média produisait le livre avec les éditions Viva. Je sais que c'est une bonne histoire, celle de ce livre bombardé au jour de son impression, mais je veux la raconter pour que les gens, les lecteurs de partout comprennent à quel point c'est important pour l'Ukraine de continuer à faire des livres pendant la guerre et qu'ils nous aident à imprimer, à écrire, à produire des livres. Et je ne parle pas de ce seul titre-là. Words and Bullets n'a pas de nouvelle date d'impression prévue, mais l'éditeur a décidé de continuer à prendre des précommandes, dit en souriant Mme Batourevitch. Un jour, j'espère, ce livre sera. C'était « En Ukraine, poésie de guerre et livres bombardés », un texte de Catherine Lalonde paru le 8 juin 2024 dans Le Devoir.
Ils sculptent des trolls en matière recyclée. Un texte de Cathy Free du Washington Post paru le 15 juillet 2024 dans La Presse. Thomas Dambo fouillait dans un dépotoir au Minnesota. Et là, bingo! De grandes poubelles en plastique jaune qui avaient été jetées par un fabricant d'outils. « Parfaites pour le lapin », s'est dit M. Dambo, un artiste danois. Il a ensuite communiqué avec l'entreprise et obtenu d'autres bacs qu'elle voulait jeter. M. Dambeau les a emportés avec 25 tonnes de vieux madriers, puis a réuni 300 bénévoles à Detroit Lakes, au Minnesota, pour faire de l'art public. Ensemble, ils ont assemblé 5 énormes trolls et un grand lapin d'or avec essuie-glace en guise de moustache et 2 casques de moto pour les yeux. Ces statues, qui font entre 5 et 8 mètres, ont par la suite été cachées dans des parcs boisés de la ville. Mon ambition est de placer dans tous les États des trolls qui surprennent les passants, clame M. Dambeau, qui s'est fait un nom et une carrière avec ces géants. Il a placé 139 trolls en poubelle dans 19 États américains, de l'État de Washington à celui du Maine et dans 20 pays. Chaque troll érigé au Minnesota a requis 5 tonnes de vieux bois. Thomas Dambeau vise l'utilisation de 12 millions de tonnes de déchets de bois, assez de matériaux pour construire 2,5 millions de trolls dans tout le pays. J'aimerais montrer aux gens toute la beauté qu'on peut créer avec des déchets. À Detroit Lakes, une troll nommée Alexa surplombe un livre de recettes et un chaudron, une grande cuillère en bois à la main. Un autre troll tire la langue à tous ceux qui le découvrent au hasard de leur promenade dans les bois. Le plus grand, Long Leaf, fait 17 mètres. Ces créations attirent des visiteurs de tout le pays depuis l'ouverture de l'exposition le 10 juin 2024, dit Amy Stearns, directrice de Project 412, un OBNL d'art communautaire tirant son nom des 412 lacs dans les environs de Detroit Lake. Des bénévoles et M. Dambeau ont aussi construit 800 nichoirs à oiseaux qui seront installés dans toute la ville. Notre région du nord-ouest du Minnesota est souvent négligée, déclare Mme Stearns, soulignant que Detroit Lakes se trouve à environ 3h30 de Minneapolis. KSTP News a récemment réalisé un reportage sur les installations artistiques massives. Raconter une histoire. Project 412 a recueilli des dons pour embaucher Thomas Dambeau après avoir appris l'existence d'un troll qu'il avait construit en 2018 au Colorado. L'artiste crée surtout des installations permanentes, mais certaines se déplacent dans des expositions temporaires, comme les trolls « Sauvons les humains », un message sur l'environnement, qui ont été exposés au zoo de Philadelphie cette année. Son projet à Detroit Lakes est le plus ambitieux jusqu'à présent. M. Dambeau, 44 ans, est un ancien rappeur et graffitiste qui s'est tourné vers l'art monumental en 2014 après avoir construit 250 nichoirs à oiseaux à partir de bois de récupération qu'il a placés dans tout le Danemark. Il a alors cherché un moyen d'utiliser des déchets pour raconter une histoire. Ma mère me chantait une chanson sur les trolls et il y avait une cassette qu'on empruntait toujours à la bibliothèque sur les légendes des trolls au Danemark, explique M. Dambeau. Les trolls sont importants dans le folklore scandinave. J'avais envie de faire de grandes sculptures et les trolls m'ont semblé le bon thème, ajoute-t-il. Ils viennent de mon enfance, de ma région du monde. Ces deux premiers trolls, M. et Mme Limbo, présentés lors d'un festival de musique danois, ont connu un tel succès qu'il a continué. En 2016, il a présenté 6 géants oubliés à Copenhague, puis Chasse aux trolls, à Chicago, et Sept trolls et la tour magique, en Belgique. En 2021, Thomas Dambo et sa femme, Alexa Piekarski, ont acheté une ferme près de Copenhague et y ont installé un atelier. Avec une équipe de 26 personnes, ils y fabriquent les têtes des trolls qui sont expédiés et montés sur les corps faits de matériaux locaux. On travaille actuellement sur 12 trolls à l'atelier. Chacun demande environ 750 heures de travail en tout et pour tout. M. Dambo consulte les villes et les organisations qu'il engage pour trouver les meilleurs endroits publics où placer les trolls et créer la surprise. « C'est comme cacher un géant dans une botte de foin », dit-il. C'est spécial de trouver quelque chose d'aussi grand, et c'est absurde de cacher quelque chose d'aussi énorme. J'adore l'idée des passants qui tombent là-dessus par hasard. M. Dambo montre ses créations sur Instagram et Facebook, où il a 300 000 abonnés. Il incorpore toujours des histoires et des légendes dans ses projets, souvent sur la thématique de protéger la planète Terre. Mes trolls sont la voix de la nature et celle des animaux, dit M. Dambo. À Detroit Lakes, l'histoire est celle d'un lapin en or qui arrive dans la ville et jette un sort aux humains. Il pense devoir travailler tout le temps pour gagner deux fois plus d'argent et être deux fois plus heureux. À l'exposition de Detroit Lakes, les visiteurs doivent trouver où se cache le lapin d'or. Pour le trouver, ils doivent résoudre les énigmes posées par chaque troll, explique M. Dambo. Le parcours commence au pied de la troll Alexa, M. Dambo lui a donné le prénom de sa femme, où des indices sont écrits dans un livre. D'autres indices se trouvent près des trois trolls suivants et mènent à la cinquième statue, le lapin d'or. Ces informations permettent de résoudre l'énigme, dit M. Dambo, ajoutant qu'il faudrait probablement de 10 à 12 heures pour arriver à la fin en une journée. Ceux qui n'ont pas ce temps ou qui n'aiment pas les énigmes peuvent emprunter un circuit, pédestre ou automobile, fourni par Project 412 et se rendre directement aux 5 trolls. M. Dambo se dit heureux que ces trolls, faits de déchets, apportent de la joie aux gens. « Dans votre poubelle se trouve peut-être une chance de changer le monde si vous y mettez un peu de créativité et d'amour, » dit-il. « Tous les déchets sont des trésors. » C'était « Il sculpte des trolls en matière recyclée. » Un texte de Cathy Free, du Washington Post, paru le 15 juillet 2024 dans La Presse.
L'enjeu de sécurité est de plus en plus préoccupant pour les résidents et résidentes du village. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 22 juillet 2024 dans le magazine Fugue. Le 11 juillet dernier, c'est dans la salle du conseil d'arrondissement de Ville-Marie qu'avait lieu la toute première conférence de presse de la nouvelle Association citoyenne du village de Montréal, ACVM, en présence de plusieurs représentants du comité de coordination de cette association, ainsi que de Robert Baudry, le conseiller municipal de Saint-Jacques, qui englobe le village, et membre du comité exécutif de la ville responsable de l'itinérance, entre autres. La CVM avait convoqué son assemblée générale de fondation presque un mois plus tôt, soit le 15 juin dernier. Évidemment, les questions d'insécurité et de cohabitation sont vite ressorties. Comme un mantra répété inlassablement, le conseiller municipal a indiqué que l'opinion des citoyens et citoyennes comptait pour la ville, alors que les enjeux sont communs à tout le monde. Bonne nouvelle pour le PDQ 22.
les citoyens et citoyennes du secteur se demandaient si le poste de quartier PDQ 22 du SPVM, situé à l'angle de Papineau et Sainte-Rose, allait fermer ses portes. On a appris de la bouche de Robert Baudry que ce ne sont que des rumeurs et qu'il y a un moratoire là-dessus. Le tout proviendrait des unités mobiles de la police afin d'optimiser leur présence et leurs opérations dans le quartier et que les gens voient de plus en plus souvent. Nous avons parlé avec Fadi Daguer, le directeur du SPVM, et on peut vous assurer qu'il n'y aura pas de déplacement ou de fermeture du PDQ 22, souligne ici Robert Baudry. C'est que le PDQ 22 est à un tout petit jet de pierre du parc Campbell, là où plusieurs personnes ont été poignardées au cours de l'été 2023, ainsi que tout récemment. M. Baudry a tenu à répéter quelquefois que non, il n'y aura pas de fermeture. Lancement officiel de l'association. Cette conférence de presse servait donc à présenter aux médias l'Association citoyenne du village de Montréal, ACVM. C'est Benoît Eclache, membre du comité de coordination et un résident du secteur depuis 14 ans, qui a été mandaté en tant que porte-parole du regroupement. Ce dernier a voulu remercier l'aide, entre autres, de l'arrondissement de Ville-Marie, de la CDC, Corporation de développement communautaire Centre-Sud, et de la Société de développement commercial, SDC, du village, pour la mise sur pied de cette structure. Benoît Eclache a mentionné que l'association est née de la volonté des gens du secteur qui avaient, lors d'un sondage en 2023, exprimé leur souhait, à plus de 500 personnes, de voir une telle association être créée. L'association a été mise sur pied avec pour objectif d'améliorer la vie dans le village, a-t-il déclaré. Cette association compte déjà environ 200 personnes. Une quarantaine de personnes s'étaient donc réunies depuis janvier dernier afin de discuter des enjeux dont s'occuperait spécifiquement ce regroupement. 8 comités ont été ainsi formés. Bien entendu, on a noté le très important comité sur la sécurité qui veille à discuter des problématiques d'insécurité grandissante dans le secteur, de l'itinérance, de la toxicomanie, de la cohabitation, etc., en vue d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de voir à trouver des solutions, a indiqué Benoît Eclache. Un autre comité socio-communautaire a été mis sur pied parce que le quartier n'est pas seulement les rues commerçantes que sont Sainte-Catherine et Atatéken et la vie nocturne, mais c'est aussi un quartier vivant, où résident des gens, a-t-il rajouté. Il y a aussi des comités, entre autres, sur le patrimoine, le transport et la circulation. À noter que la CVM tiendra un kiosque lors des Journées communautaires de Fierté Montréal afin de faire connaître l'association et y recruter des membres résidents ou sympathisants. On en profitera également pour procéder à un nouveau sondage sur la sécurité, parce qu'il faut amasser des données. On sait que beaucoup d'incidents ne sont pas rapportés par les gens à la police. On voudrait les encourager à le faire, mais il nous faut des données, explique Benoît Eclache. Encore un autre sondage, et cela sert-il à quelque chose? On aimerait développer des outils pour faciliter les choses, pour que les gens rapportent plus les incidents. On aurait une meilleure idée de combien il y en a et pouvoir discuter de solutions, souligne-t-il. Les gens sont nos oreilles et nos yeux sur le terrain, dit Robert Baudry. Est-ce que cela règle tout? Non. Mais on a des données rapportées par les citoyens. C'est avec de telles données qu'on peut mieux travailler sur les enjeux de sécurité. On a augmenté les ressources policières, des ressources communautaires aussi. Ce sont des enjeux complexes de pauvreté, de manque de logement, etc. Mais on travaille dessus. Robert Baudry avait fait une petite allocution quelques minutes avant la période de questions, au cours de laquelle il a énuméré divers sujets qui lui sont chers sur le village. Notamment, la stratégie collective sur le village qui découle, entre autres, du Forum du village, tenu en septembre 2022. Il a souligné que les gens du secteur devaient s'impliquer aussi pour le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Est. C'est un investissement majeur, au même titre que sur Sainte-Catherine dans l'Ouest, a-t-il noté. Ces aménagements, après des travaux qui débuteront l'an prochain, agiront sur la vitalité commerciale de l'artère, sur la propreté, etc. Mais on ne veut pas le faire tout seul. On veut le faire avec les citoyens, de rajouter Robert Baudry. Le conseiller municipal mise aussi sur le fonds d'initiative locale, dans lequel la ville a injecté plus de 500 000 $ pour des projets citoyens touchant la culture, la sécurité, le verdissement, etc. Il a mentionné au passage qu'il est important pour les citoyens de participer à la consultation annoncée par la mairesse Valérie Plante le 9 juillet sur les enjeux de cohabitation à Montréal, une consultation menée conjointement avec la Direction de la santé publique de Montréal. L'ancien maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et ex-député bloquiste Réal Ménard, présent dans la salle, a admonesté très doucement et gentiment l'administration Plante sur le fait que celle-ci ne pousse pas assez les dossiers de l'itinérance, du logement, etc., auprès des gouvernements fédéral et provincial. Robert Baudry a saisi la balle au bond en disant qu'il y a maintenant une meilleure collaboration avec le CIUS, qui dépend du ministère de la Santé et des Services sociaux, qu'il est vrai qu'il manque des ressources et des équipes. Nous faisons des efforts en ce moment. Nous allons rencontrer prochainement les gens de la CAQ, Coalition Avenir Québec, le parti du premier ministre François Legault. Des rencontres sont prévues avec différents intervenants, a indiqué Robert Baudry. Cette conférence de presse de la CVM n'était pas suivie que par des résidents et résidentes du secteur. On pouvait remarquer aussi la présence de représentants d'autres associations de résidents, comme celle du Vieux-Montréal, d'une nouvelle association de résidents du quartier chinois, ou encore de gens habitant le secteur de l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, sur Saint-Urbain et les rues environnantes. C'est clair qu'on peut travailler ensemble pour développer des stratégies puisque les enjeux sont souvent les mêmes, de dire Sylvain Côté, le président du conseil d'administration de l'ACVM, en répondant à un commentaire de quelqu'un du Vieux-Montréal. C'était « L'enjeu de sécurité de plus en plus préoccupant pour les résidents et résidentes du village », un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 22 juillet 2024 dans le magazine Fugue.